Europe 1.
Europe 1 Soir Weekend.
18h-19h. Pierre de Villeneuve.
Bonsoir à tous. Europe 1 Soir Weekend. Une heure d'info, de décryptage et de débat. Il est 18h sur Europe 1. Au sommaire, la violence toujours à Grande-Synthe au lendemain de la marche blanche pour Philippe, le cousin d'un des mineurs mis en examen dans l'affaire agressé avec le même modus operandi. Précision dès le début de ce journal. À Mayotte, Marine Le Pen explique que l'opération Wambushu n'est qu'une opération de communication et qu'elle propose de vraies solutions qu'aucun gouvernement n'avait envisagées jusqu'à présent. Décryptage à suivre. Nous irons aux États-Unis où le Congrès doit se prononcer sur l'aide de 61 milliards de dollars à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky l'attend de pied ferme, les Américains sont moins décidés. Nous inviterons Qatar Abou Diable, grand spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Que penser de cette frappe en Irak et aussi de l'appel de Erdogan aux Palestiniens, restez unis face à Israël. Enfin, à l'approche des JO, du saut à la perche avec un record battu par son tenant du titre, 6 mètres 24, avis aux amateurs. La météo, la tendance, bonsoir Anthony Kaczmarek.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Encore des nuages et des averses demain, comme aujourd'hui entre les régions centrales et les frontières de l'Est. Le soleil, encore pour la côte atlantique et pour les régions du Sud, avec toujours du froid pour la saison, souvent entre 7 et 16 degrés, pas plus demain.
18h15, l'interview politique avec le maire du Raincy en Seine-Saint-Denis, Jean-Michel Genestier, se targue d'avoir su faire dans sa commune ce que rêve de faire Stanislas Guérini dans toute la France, en l'occurrence supprimer la moitié des fonctionnaires. 18h30, panorama. Gabriel Attal veut mettre les jeunes en internat, en maison de redressement. Est-ce donc ça la solution miracle à la violence des jeunes? Et l'excuse de minorité alors, faut-il la remettre en cause? Et d'une manière générale, comment faire taire ce que Jean-Pierre Chevènement appelait les sauvageons? Deux grands témoins pour en parler tout à l'heure, l'avocat pénaliste Jean-Yves Le Borgne et le préfet Michel Auboin. Hier, une grande marche blanche à Grande-Synthe dans le Nord a rassemblé plus de 2000 personnes pour Philippe, 22 ans, tué après avoir été pris pour cible dans un guet-apens. Nouvel épisode dans cette affaire, Guillaume Dominguez. Un proche de l'un des deux mineurs mis en examen dans l'affaire a été agressé dans la ville.
Oui, un cousin de l'un des deux suspects. Alors selon la procureure de Dunkerque, cet adolescent de 15 ans aurait été violemment agressé hier soir et le ou les agresseurs lui auraient également volé ses affaires, dont son survêtement et ses baskets. Selon une source policière, le jeune homme aurait été retrouvé nu sur la chaussée par un automobiliste qui l'aurait amené à l'hôpital où il aurait été soigné pour des blessures légères. L'adolescent aurait alors expliqué avoir été attaqué par deux hommes cagoulés alors qu'il avait rendez-vous via un réseau social. Un scénario qui n'est pas sans rappeler celui de l'agression de Philippe Koopman mardi soir. Même si pour l'heure il faut rester très prudent, le jeune homme agressé hier soir n'a pour le moment pas été entendu par la police.
Du coup, un renfort de police est annoncée sur la commune.
Et oui, même si pour l'heure les autorités ne craignent pas de représailles ni d'escalade des tensions, une vigilance particulière est apportée à la commune de Grande-Synthe, au moins pour le week-end. Des patrouilles de police supplémentaires sont prévues dans le secteur. Julien Soir, délégué du syndicat de police Alliance dans le Nord.
Afin de rassurer la population, afin d'éviter forcément des nouveaux faits, on va accentuer les patrouilles sur le secteur de Grande-Synthe. On a les patrouilles dites d'appui qui sont là justement en renfort et qui ne sont pas forcément dédiées aux missions de police secours, qui vont faire des patrouilles plus régulières, alors que ce soit en civil ou en tenue.
Et en parallèle, le préfet du Nord a demandé au ministre de l'Intérieur de renforcer le dispositif de police. Une compagnie de CRS ou de gendarmes mobiles pourrait être déployée à Grande-Synthe au moins pour le week-end.
Merci Guillaume Dominguez. Ras-le-bol d'être maire, le phénomène n'est pas nouveau. Le maire, c'est celui sur lequel tous les habitants viennent s'apitoyer. C'est aussi celui qui reçoit des menaces de mort ou qui se fait agresser quand les choses vont mal. Claude Cohen, maire LR de Mion, s'en a fait les frais. En 2022, lui et ses adjoints avaient été menacés sur le parvis de la mairie. Aujourd'hui, avec les violences, les coups de pression de l'État, notamment pour les logements sociaux et surtout l'antisémitisme grandissant depuis le 7 octobre, il claque sa dème avec lettre à la préfète de la région. Il s'est confié à Noémie Loisel pour Europe 1.
J'ai eu un certain nombre de cumuls qui se sont rajoutés. C'est que je m'appelle Cohen, je suis juif, comme tout le monde le sait. Et les propos antisémites sont réguliers depuis de nombreuses années. Ça fait 10 ans que ça dure. C'est régulier, mais depuis le 7 octobre, ça a recommencé intensément. Je vais vous dire, je ne souhaitais pas. Je pensais fermer mon gars pour lequel j'ai été élu. La fonction est devenue de plus en plus difficile. Il y a énormément de maires qui démissionnent à cause de la lourdeur administrative. Depuis quelques années, la lourdeur administrative, les dossiers se rajoutent sur les épaisseurs, et ça me pèse. Et vous savez, une goutte, plus une goutte, plus une goutte, ça fait déborder.
Claude Cohen, interrogé par Noémie Loisel pour Europe 1, et puis un autre maire dans cet Europe 1 soir, Jean-Michel Genestier, il nous parlera de sa gestion des fonctionnaires. C'est à suivre tout à l'heure à 18h15. La politique avec le déplacement de Marine Le Pen à Mayotte. La chef de file des députés RN suit de très près le déplacement de Gérald Darmanin, qui cette semaine a, vous le savez, lancé la deuxième opération Wambushu pour tenter de stopper l'immigration comorienne, surtout après les résultats décevants de la première opération. L'occasion idéale pour Marine Le Pen de tacler le ministre de l'Intérieur, Alexis de la Fontaine.
Oui, Marine Le Pen dénonce un coup de communication de la part de Gérald Darmanin sans avoir retenu les leçons de l'échec de Wambushu 1. Aucun bilan n'a été fait, assure la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Selon Marine Le Pen, avant de vouloir rétablir l'ordre à Mayotte, il faut attaquer le mal à la racine, c'est-à-dire mettre la pression sur les Comores.
On va siffler la fin de la récréation. Ils vont reprendre leurs ressortissants, et s'ils ne les reprennent pas, eh bien, nous prendrons des mesures qui seront des mesures extrêmement fermes, des mesures de rétorsion extrêmement fermes.
Des mesures fermes comme la suppression des visas ou le gel de l'ensemble des biens des dirigeants comoriens, des propositions que Marine Le Pen porte depuis la présidentielle de 2022 et qui avait permis à la candidate du Rassemblement National de recueillir près de 60% des voix à Mayotte.
Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Vous restez avec nous à 18h06 sur Europe 1 dans quelques instants. La suite du journal avec l'Ukraine qui surveille de très près le Congrès américain avec l'aide de 61 milliards de dollars. Et puis le conflit Israël-Hamas, va-t-on vers une régionalisation? Le spécialiste Qatar Abou Diab nous attend et nous répond. À tout de suite.
Europe 1 Soir Week-end.
Europe 1 Soir Week-end. Pierre de Villeneuve.
Le retour du journal sur Europe 1 à 18h08, direction les États-Unis. C'est aujourd'hui que la Chambre des représentants devrait enfin voter l'aide à l'Ukraine et Israël, que Joe Biden a promis d'ailleurs d'approuver immédiatement. Ça fait déjà plusieurs mois que les Républicains, en particulier majoritaires à la Chambre, bloquent cette aide pour faire notamment obstacle à Joe Biden alors qu'on est en pleine campagne. Mais le président de la Chambre estime qu'il est temps de voter, et cela même si une partie de sa majorité y est également opposée, Aviva Fried.
Oui, Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, doit user de stratagèmes pour faire voter ses aides. Au lieu d'une seule loi qui engloberait tout, il a décidé d'en faire voter trois. L'une prévoit 61 milliards de dollars pour l'Ukraine, notamment pour acheter du matériel militaire aux Américains. Mike Johnson ne veut plus tergiverser.
Franchement, je préfère envoyer des munitions en Ukraine que des Américains. Mon fils va commencer l'académie navale cet automne. C'est l'épreuve du feu pour moi, comme pour beaucoup d'autres familles américaines. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague.
Une autre loi accorde plus de 26 milliards de dollars à l'aide militaire pour Israël, ainsi qu'à l'aide humanitaire pour Gaza. Enfin, la troisième loi octroie 8 milliards de dollars à Taïwan. Un bricolage, mais qui permet de s'assurer le soutien de différentes factions. Les partisans d'Israël ne sont pas forcément les mêmes qui soutiennent l'aide à l'Ukraine. Pour faire passer la pilule, Mike Johnson a même prévu une quatrième loi visant à interdire TikTok. Pourtant, des parlementaires de sa majorité, fidèles de Donald Trump, ont annoncé qu'ils allaient essayer de le faire tomber comme son prédécesseur, ce qui pourrait plonger la Chambre des représentants encore plus dans le chaos.
Merci. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Un mort et plusieurs blessés dans une explosion sur une base militaire en Irak. Pour l'instant, le flou règne sur les circonstances de ce fait survenu sur cette base de Khalsa, qui abrite des effectifs de l'armée, de la police, des combattants du Hashd al-Shaabi, désormais intégrés aux forces régulières irakiennes et alliés de Téhéran. Le commandement américain a tout de suite dit que ce n'était pas eux. Les Israéliens, conformément à leur méthode, ne commentent pas. Évidemment, une semaine après les tirs iraniens sur Israël et une riposte israélienne en Iran, beaucoup de questions se posent. Bonsoir Qatar Abou Diab.
Bonsoir.
Géopolitologue spécialiste de l'islam du Moyen-Orient, professeur à Paris-Sud, quelle lecture faites-vous de ces faits?
La mobilisation populaire ou al-Hashd al-Shaabi, l'un des proxys de l'Iran, maintenant dans cette région du monde, s'implique dans ces conflits entamés à partir de Gaza le 7 octobre 2023. Au début de l'année, ces forces irakiennes auxiliaires ont attaqué beaucoup les bases américaines en Irak et en Syrie, mais après des frappes américaines sous l'impulsion de l'Iran, ils ont arrêté ces frappes. Mais ils ont continué les frappes. Ils prétendent avoir touché Jaffa à plusieurs reprises, après avoir touché aussi des endroits en Israël sur la mer Rouge. Et pour cela, il y a donc beaucoup de doutes que les Israéliens ont mené l'une des actions de cette guerre d'ombre contre l'Iran et ses proxys sur le territoire irakien.
Donc, ces combattants du Hashd al-Shaabi, ce sont quoi? Ce sont un peu comme les brigades des Zedine el-Kassam, ce sont des combattants très férus. Faites-nous le portrait robot d'un combattant comme celui-ci.
Écoutez, al-Hashd al-Shaabi, c'est quelque chose d'hétérogène, des milices plutôt chiites en majorité, et on a quelques sunnites et chrétiens, mais vraiment très minoritaires. Ces groupes ont été formés après la montée de l'organisation de l'État islamique Daesh. Mmh. Et sous ces prétextes, l'Iran a fait de ses proxys, de ses forces auxiliaires, une force parallèle à l'armée irakienne. Et même, elle est plus dangereuse et plus active que l'armée irakienne. Et il est, bien sûr, comme le Hezbollah, comme le djihad islamique en Palestine, comme le Houthi au Yémen, et comme parfois le Hamas, tous ces groupes sont utilisés comme à la solde de l'Iran, comme force active au service du projet iranien.
L'autre événement de ce samedi, Qatar Abu Dhabi, c'est la rencontre entre Recep Tayyip Erdogan et Ismail Haniyeh, l'un des chefs du Hamas, entretien suite auquel le président turc a appelé les Palestiniens à l'unité face à Israël. Quelle unité? De quoi il parle?
Le président palestinien, bien sûr, il fait allusion...
Le président turc, excusez-moi.
Il fait allusion surtout à deux organisations palestiniennes qui se sont séparées, c'est-à-dire le Fatah et le Hamas. Et malgré toutes les tentatives depuis 2006, ces deux groupes ne se rencontrent pas. L'autorité palestinienne dans la Cisjordanie est dirigée par Fatah. Et Gaza est dirigé par Hamas depuis 2006.
Mais ça veut dire qu'il encourage tous les Palestiniens à être derrière le Hamas contre Israël?
Non, c'est pas nécessaire ça. Je pense dans la perspective, car Erdogan a changé de discours et de paradigme. Et pour cela, je pense que le même jour, le ministre égyptien des Affaires étrangères était à Ankara. On propose maintenant de déplacer la direction de Hamas des Qatar vers d'autres pays arabes ou vers l'Iran ou la Syrie. Et pour cela, donc, le président turc, qui a quand même des liens avec le mouvement Hamas et des liens aussi avec Mahmoud Abbas et le mouvement Fatah et l'autorité palestinienne, tente de pousser vers une réorganisation ou une organisation de cette maison palestinienne.
Donc il pense déjà Qatar Abu Dhabi à l'après, c'est ça, à l'après-conflit.
Oui, il pense à l'après-conflit.
Bon, vous voyez, c'était bien qu'on s'en parle, parce que évidemment, avec des dépêches urgentes comme ça qui nous disent les Palestiniens face à Israël, on peut peut-être mal comprendre certains propos. Merci beaucoup Qatar Abu Dhabi d'avoir été en ligne avec nous et en direct sur Europe 1. Le foot, 30e journée de Ligue 1 en ce moment. Nantes et Rennes s'affrontent ce soir 21h. Lens contre Clermont. Les Jeux Olympiques approchent, ça ne vous a pas échappé. 97 jours avant la cérémonie d'ouverture et certaines stars de l'été brillent déjà. À l'image du sauteur Armand Duplantis, il disputait son premier meeting de l'année aujourd'hui en Chine et il a déjà battu son propre record du monde, Martin Lange.
Oui, 6 m24, Pierre, 1 cm de mieux que son précédent record établi il y a à peine 7 mois. Mondo Duplantis, c'est son surnom, est définitivement sur une autre planète. Cet après-midi à Xiamen, en Chine, il lui a fallu simplement 3 sauts pour éliminer tous ses adversaires. Seul au monde, le Suédois a ensuite demandé une barre à 6 m24, barre qu'il a franchie au premier essai, bien sûr, avec une marge hallucinante. D'ailleurs, loin de se reposer sur ses lauriers, le jeune homme estime qu'il peut aller encore plus haut. Écoutez.
Oui, c'est possible. Je pense que j'ai encore plus à donner. Je ne pense pas que le saut d'aujourd'hui soit parfait. Bien sûr, il est pas mal, mais au niveau du timing, de la poussée, ce n'était pas parfait à 100%.
Il faut dire qu'on l'oublie, mais Mondo Duplantis n'a que 24 ans et c'est déjà son 8e record du monde. Alors il est encore loin de Sergueï Boubka, ça vous devez connaître, Pierre, la légende de la perche.
Traitez-moi de vieux, tout de suite on vous dira rien.
La légende de la perche avec ses 35 records du monde, mais il s'en approche. Et surtout, personne ne semble en mesure de le challenger. Si bien que la question n'est plus vraiment est-ce que Duplantis sera champion olympique cet été à Paris, mais plutôt à quelle hauteur ira-t-il. Et certains rêvent déjà d'une barre à 6 m30.
Armand Duplantis, il est suédois. Hein.
Il est suédois.
Il s'appelle
tout à fait.
Armand, mais
oui, parce qu'il a des origines françaises, figurez-vous.
Ah ben voilà, comme ça on saura tout. Il devait faire 2 mètres de haut à peu près, non?
Il n'est pas si grand que ça, un bon 1m90.
6m24, c'est quand même dingue. Merci mon cher Martin Lange, qui est bien français, lui. La météo, Anthony Kaczmarek. Vous êtes un compatriote, vous.
Ah bah oui, évidemment.
Très peu de changements par rapport à aujourd'hui. Donc.
Avec toujours ces nuages, ces averses, sur un très large quart nord-est, des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté à l'Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'Île-de-France également. Seul changement, c'est qu'il y aura des averses aussi en Normandie demain, donc plus qu'aujourd'hui, il y en avait vraiment quelques-unes à peine. Et puis les éclaircies vont prendre le dessus sur les averses vers les Hauts-de-France uniquement dans l'après-midi. Le matin, ce sera agité. Et plus vous irez vers l'ouest, plus vous irez vers le sud, comme aujourd'hui, plus vous aurez du soleil, avec toujours un mistral très turbulent près de la Méditerranée, jusqu'à 90 km/h en rafale, et peut-être un orage, comme aujourd'hui là encore, en fin de journée, sur les Alpes-Maritimes et le nord de la Corse. Et puis la neige va encore tomber sur tous les reliefs de l'Est, mais un peu plus bas qu'aujourd'hui, à partir de 400 mètres seulement en matinée, notamment sur les Vosges, parce qu'on va encore perdre 1 ou 2 degrés demain. Oui, si, c'est possible. Moins 2 au réveil à Aurillac et à Rodez, 0 à Nevers, donc retour des gelées demain. 3 degrés à Lyon, 4 seulement à Lille et à Paris. Et dans l'après-midi, vous aurez 7 à 15 degrés sur presque tout le pays. 15 à 21 seulement sur le tiers sud entre l'Aquitaine et la Méditerranée, 21 à Perpignan, mais 16 degrés seulement à Bordeaux et Nîmes, 13 à Paris et Grenoble, 11 à Lyon, 9 à Saint-Étienne, 7 degrés à Belfort et Colmar. Tout ça est bien faiblard pour la saison.
Merci mon cher Anthony, 18h17 sur Europe 1 dans un instant. Et si c'était vrai, pour reprendre le titre d'un roman célèbre, supprimer la moitié des fonctionnaires, c'est possible. Jean-Michel Genestier l'a fait dans sa mairie du Rhin, s'il y a tout de suite sur Europe 1.